Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour. Bonjour, bienvenue, re-bienvenue. Il est actuellement 10h sur les ondes de la CFAC. Et notre prochain invité est Monsieur Youri Blanchet, président de la FECSESQ, Fédération de l'enseignement collégial. Alors bonjour Monsieur Youri, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Merci. Alors aujourd'hui, il est là pour nous parler des défis que font face les cégeps et la tournée à travers les cégeps du Québec pour rencontrer les syndicats affiliés à la FEC et la CSQ, CSQ pour Centrale Syndicale du Québec. Alors, Monsieur Blanchet, pour commencer, dites-nous quel est l'objectif principal de cette tournée et que souhaitez-vous en tirer concrètement pour le réseau collégial?
Ben, l'objectif premier est assez simple, c'est que c'est un nouveau mandat. J'ai été réélu à la présidence de la FEC en juin dernier lors du congrès. Mm-hmm. Et dans cette perspective, puisqu'on n'est pas en année de négociation, je me suis dit, je vais aller voir dans les cégeps locaux, là, nos affiliés, comment ils vivent, entre autres, mm-hmm. toute la question des coupures budgétaires là, qui ont affecté le réseau collégial depuis l'annonce qui en a été faite en mai dernier. Puis en même temps, ben, j'en profite aussi pour voir... pour l'intelligence artificielle, de quelle manière est-ce que ça se déploie, c'est-à-dire les balises qu'on peut retrouver ici et là. Je veux voir aussi, je tente aussi le pouls concernant, je dirais, les positions locales concernant la liberté académique, puis une loi possible aussi, la loi qui pourrait être élargie au niveau collégial. Fait que c'est vraiment une tournée des syndicats affiliés du Québec pour pouvoir avoir un portrait précis de ce qui se passe dans chacun des établissements, puis peu importe où on se trouve.
Parfait. La rentrée 2025 s'est amorcée dans un contexte de compression budgétaire, alors que même les cégeps accueillent un nombre record d'étudiants et d'étudiantes. Quel serait un aperçu des conséquences réelles de ces compressions sur le terrain?
Bien, ça se traduit de toutes sortes de manières, puis de façon très variable. Ça, je dois d'abord le dire parce que, bon, le portrait n'est pas identique d'un endroit à l'autre. Mais une chose est certaine, c'est que actuellement, les compressions budgétaires bloquent tout développement là, ou tout projet de développement des cégeps ou aussi leur rendissent leur tâche à soutenir l'arrivée massive de nouveaux étudiants et de nouvelles étudiantes dans leurs institutions. Puis, ben, ce qu'on retrouve, en fait, d'un endroit à l'autre, c'est que c'est bien entendu des compressions de dépenses là, matérielles, mais aussi des compressions dans l'embauche du personnel. Là. Pas le personnel enseignant, bien entendu. Quand on a un nombre d'étudiants, il faut donner un cours, il faut avoir un prof devant. Mais tous les personnels afférents, c'est-à-dire techniciens, techniciennes, personnel dédié à la réussite, là, je parle entre autres d'aide pédagogique individuelle ou de psychologues dans le réseau. Donc, c'est que tous ces corps d'emploi-là sont touchés par un gel d'embauche qui s'ajoute aux compressions budgétaires et qui rend très difficile actuellement le soutien à l'arrivée de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants, comme je disais.
Parfait. Dans vos interventions, vous insistez sur le fait qu'il s'agit d'une mauvaise décision gouvernementale. Quels signaux ou éléments concrets vous amènent à cette conclusion et comment la FECSESQ entend-elle faire pression pour un changement de cap auprès du ministère de l'Enseignement supérieur?
Bien, la première des choses, c'est d'essayer de convaincre la ministre, bien entendu, la nouvelle ministre qui a été nommée là, lors du remaniement ministériel en septembre dernier. Je parle ici de Mme Martine Biron, en remplacement de Mme Pascale Derry. J'imagine que Mme Derry était au courant un peu des effets qui étaient vécus dans les cégeps suite aux annonces de compression. Mais elle ne nous a jamais fait la preuve qu'elle en tenait compte. Mme Biron, comme ancienne journaliste, je me disais, il me semble que de la rencontrer, de lui expliquer vraiment ce qui se passe sur le terrain, puis ce qui est vécu comme effet négatif dans les cégeps, pourrait peut-être contribuer à faire changer le gouvernement, en tout cas de direction, quant à ces coupures. Mais je ne suis pas non plus, je ne vis pas dans un monde de licorne. Je sais très bien que ça peut être difficile de faire changer le gouvernement actuellement, surtout quand on voit ce gouvernement-là qui agit de façon unilatérale dans bien des dossiers. On l'a vu, entre autres, avec la loi 2 pour les médecins. Alors, donc, mes attentes sont limitées, mais je vous dirais quand même que j'attends avec impatience une première rencontre avec Mme Biron, qui devrait arriver là, incessamment. Là, on a fait une relance pour avoir une rencontre, puis je devrais avoir une date très bientôt. Alors, je tenterai de la convaincre. C'est le premier pas qu'on peut faire. Mm-hmm. pour la suite, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous, on travaille aussi dans une perspective peut-être à plus long terme. On sait que ce gouvernement-là est un gouvernement bon en fin de mandat. Là, il reste à peine quelque chose comme une dizaine de mois de pouvoir. Donc, selon les sondages, on peut penser que ça va changer. Alors, ben, nous, de notre côté, on essaie de voir aussi avec les oppositions de quelle manière est-ce qu'elles supportent l'enseignement supérieur, puis de quelle manière on pourra en faire des alliés.
Parfait. Vous évoquez aussi également la nécessité d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le réseau collégial. Selon vous, quels sont les risques ou les enjeux principaux à une utilisation non encadrée de l'IA dans les cégeps?
Ben, c'est ça. J'aime bien parler d'enjeux ou de défis, hein, parce que c'est pas souvent on parle d'un problème alors que c'est pas un problème. C'est que c'est une nouvelle technologie qui est de plus en plus performante, puis, dont il faut tenir compte dans l'enseignement, mais aussi dans l'évaluation des apprentissages. Nous, on aimerait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus balisé. On veut pas se faire imposer quelque chose mur à mur, mais on pense que des directives un peu plus claires ou s'il y avait un projet pilote, par exemple, qui était mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur avec un comité d'experts qui pourrait mettre en place un certain nombre, de, par exemple, de balises qui pourraient s'appliquer dans tous les établissements avec peut-être une application qui est différenciée d'un établissement à l'autre selon ses réalités, on pense que ça aiderait le réseau. Parce que ce qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a des profs qui sont inquiets de la qualité de l'évaluation là pour la TC des compétences, entre autres, lorsqu'il y a production écrite à cause de l'aide qui est souvent apportée aux étudiantes et aux étudiants par l'utilisation de l'IA. Ça, c'est une chose. Donc, l'évaluation des compétences. Mais on veut voir aussi de quelle manière on peut réussir à encadrer son utilisation à l'intérieur même de l'enseignement dans le réseau collégial. Puis, ben, c'est sûr que des lignes guides pourraient franchement aider pour ce faire. Peut-être dans cette foulée-là, on sait qu'en début d'année, le ministère de l'Enseignement supérieur, juste avant le départ de Mme Derry, là, a déposé un guide aux établissements concernant l'intelligence artificielle et son utilisation peut-être ou sa mise en application à l'intérieur des institutions, la mise en application de son utilisation, dis-je bien. Mais il y avait aussi un rapport qui était le rapport des experts là, d'un comité consultatif qui avait été mis en place l'année dernière. Ce qu'on reproche, c'est qu'en fait, on a deux documents ici qui sont fort intéressants, mais qui sont très larges, très vagues dans leur application et surtout qui viennent sans aucune ressource. Alors ça aussi, c'est un problème parce que avec des nouvelles technologies comme ça, il faut offrir des formations, il faut libérer les gens pour des communautés de pratique, pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire face à la musique. Et actuellement, il n'y a aucune ressource qui est dédiée. Bien entendu, dans un contexte de compression budgétaire, vous me direz que ce n'est peut-être pas la priorité, mais reste néanmoins que dans les institutions collégiales, on doit vivre avec l'avènement de l'IA. Puis pour ce faire, ben là, présentement, ça repose simplement sur les épaules des enseignantes et des enseignants, mais aussi des départements.
Parfait. Alors, c'est la dernière question. On regarde l'histoire de la FEC-CSQ qui milite depuis plus de 50 ans pour un enseignement de qualité. Comment percevez-vous l'évolution du rôle des cégeps dans la société québécoise et quels seront, selon vous, les grands défis des prochaines années pour préserver leur mission publique?
Écoutez, je crois tout d'abord d'entrée de jeu là, que ça a toujours sa place et même plus que jamais, je dirais. On a besoin de plus en plus, entre autres, on parle d'IA là, mais il y a les technologies qui de toutes sortes qui s'intègrent dans le marché du travail et parfois dans certains métiers dont on ne connaît pas la possibilité, puis aussi des nouveaux métiers qui sont émergents. Ceci étant dit, donc les cégeps sont des acteurs de premier plan pour pouvoir répondre à ces demandes-là puis faire face à ces nouveaux défis-là. Ça, c'est clair. Une chose est certaine, ce modèle-là, qui est unique quand même au monde, là, vraiment, il faut le dire, là, les cégeps, c'est un modèle unique, mais ça permet d'avoir des institutions dans toutes les régions du Québec, des institutions d'enseignement supérieur qui peuvent qualifier à la fois des jeunes, la jeunesse a des métiers, bien entendu des qualifiés, mais aussi qui forment des citoyens par forgeant un petit peu la pensée par des cours de tronc commun. Donc, je pense que la place, on n'a pas à la questionner encore, même si de façon cyclique, ça revient là, dans l'actualité, ce questionnement du réseau. Puis la chose, pour ces défis peut-être, c'est le manque de financement. Vous savez peut-être que la vérificatrice générale en 2024 avait sorti un rapport sur l'état des cégeps. Et la conclusion était la suivante, c'est que plus de deux tiers des établissements collégiaux avaient besoin de rénovations majeures et ou immédiate pour le maintenir à niveau le parc immobilier, entre autres. Donc ça, ça va même jusqu'à la capacité de donner des cours là, dans certains locaux. Alors ça, moi, je pense qu'il faut qu'on donne un coup de barre dans l'avenir. Ça, c'est un problème ou un défi à relever dans le réseau, vraiment, toute la question des bâtiments eux-mêmes, là, leur mise à niveau. Ça, c'est une chose. Mais maintenir ou s'assurer que le réseau collégial, comme tout le système d'éducation au Québec, ne soit pas tributaire de volonté de gouvernement de vouloir couper. L'éducation, c'est un investissement, puis je trouve qu'on le perçoit souvent, trop souvent, comme une dépense dans la tête des politiciens, alors que c'est un investissement dans la jeunesse et la société de demain. Puis M. Legault dit, le répéter ad nauseam, « Oh, je veux des emplois bien payés. » Mais pour avoir des emplois bien payés, il faut des gens bien formés. Puis pour bien les former, il faut des institutions de qualité, puis il faut les investir dans ces institutions-là. Donc voilà pour l'avenir du réseau, ce que je pourrais en dire.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Yuri, pour votre présence et pour votre de comment vous avez expliqué aujourd'hui les défis dont font face les cégeps au Québec. C'est très dommage avec les coupures budgétaires et tout, mais bon, en espérant que ça va s'arranger bientôt.
En espérant aussi.
Merci.
Je vous remercie.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.